La grande inconnue, je trouve, c'est la vitesse. La vitesse du changement et de la transformation pour qu'elle soit à la fois acceptée, qu'elle ne soit pas idéalisée. Je trouve que c'est la gestion de l'impatience qui est peut-être un des critères les plus importants et sur lesquels il faut sans cesse travailler.
Bienvenue dans cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur, un podcast entreprise du futur réalisé en partenariat avec Okedito, agence de croissance digitale pour la performance des équipes marketing et commerciales. Ce podcast est réalisé depuis le 8e congrès entreprise du futur à Lyon. Des histoires donc de transformation d'entreprise, de partage d'expériences et de visions. La parole est donnée à ces dirigeantes et dirigeants qui nous racontent comment ils préparent leurs entreprises pour le futur. Dorothée Lintner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de Bioforce, qui est un centre de formation pour les métiers de l'humanitaire, donc ici à Lyon, mais aussi à Dakar, et on va dire sur tous les terrains de crise. Alors j'allais dire, quand on parle de transformation, ce qui est l'objet de ce podcast, ça vous parle largement, puisque vous avez lancé un plan de transformation.
Oui, tout à fait. En effet, on l'a lancé en décembre dernier parce que Bioforce doit opérer un changement assez fondamental. Non seulement pour se détacher des modèles d'hier qui ne sont plus valables dans le secteur humanitaire, mais aussi dans le monde de la formation, et puis évidemment prendre le virage du futur, pour être vraiment au plus près des besoins des personnes à former qui sont sur les terrains de crise, et aussi avec des pédagogies adaptées dans un modèle économique qui est viable.
Voilà, donc c'est une entreprise, ça a quand même 40 ans, c'est ça, d'histoire.
Tout
donc avec des habitudes qui sont, j'imagine, bien ancrées. Donc quand il faut mettre en place la transformation, c'est peut-être pas si simple que ça.
Absolument, parce qu'il y a aussi 40 ans avec des succès, c'est l'école de référence dans le domaine, donc forcément, quand les recettes marchent et on se dit que c'est celles-là qui ont fait le succès de l'école, comment est-ce qu'on va pourquoi changer et puis pour aller vers quoi, avec l'inquiétude que ça peut générer, comment on y va, c'est surtout la plus grande question que se posent évidemment les salariés, avec le regard des parties prenantes autour, qui aussi s'interrogent de savoir comment l'école se positionne. Donc effectivement, c'est créer les conditions de la nécessité de changement, la prise de conscience, et puis essayer de rassurer aussi pour essayer de montrer la voie. Voilà.
Montrer la voie. Alors évidemment, on va parler de cet aspect, on va dire, très humain, mais aussi il y a un contexte, on le voit aussi, il y a un contexte humanitaire qui évolue très vite et qui nécessite évidemment que vous-même vous transformiez, vous évoluez, hein, c'est bien ça?
Tout à fait. Sur le contexte humanitaire, je vais vous donner deux chiffres, vous allez très vite comprendre. Le marché d'emploi de l'humanitaire, c'est à peu près 650 000 travailleurs dans le monde. En 2010, il y avait à peu près 40% d'expatriés, 60% de personnes dans les pays, et notamment dans les pays en développement, là où se trouvent les crises. Aujourd'hui, il y a 8% d'expatriés, 92% de personnels nationaux locaux. Donc, évidemment, il y a un mouvement énorme de transfert, ce qui s'appelle la localisation, et qui évidemment change la donne, parce qu'on ne va plus former aux mêmes endroits et on ne va plus former les mêmes personnes, donc et pas du tout avec la même approche. Et puis aussi, le métier de l'humanitaire change, les révolutions numériques aussi impactent ces métiers-là, les questions de transition écologique aussi impactent ces métiers-là. Donc je vous donne un exemple tout simple. Un logisticien, demain, il va piloter des drones parce qu'il ne va pas lui-même déplacer des gens sur des zones de crise pour des questions sécuritaires, mais aussi va piloter de la data, des systèmes d'information, limiter le nombre de transports aériens, d'approvisionnement, etc.
Alors comment vous vous y prenez? J'allais dire, cette démarche-là, vous la lancez presque, j'allais dire, vous-même seul, hein, vous le portez et vous allez justement vers vos collaborateurs pour construire quelque chose de nouveau. C'est ça, c'est assez innovant.
Donc c'est à la fois seul, mais évidemment... On est tous ensemble.
Oui,
on ne peut pas y arriver. Nous sommes 74 salariés. Impossible de le faire seul. On le fait avec la gouvernance et puis avec les membres du comité de direction. Et puis, au fur et à mesure, avec tous les salariés qu'il faut donc engager. Ça passe par de la communication très fréquente, des groupes de travail dédiés. Et puis essayer le plus possible encore une fois, à la fois de poser un diagnostic sur l'organisation pour bien voir ce qui ne fonctionne pas, ce qui est à garder et ce qui est à améliorer. l'améliorer et puis et de le partager. Donc avec vraiment des temps réguliers et puis des task force, groupes de travail internes dédiés pour essayer de mener les différents chantiers.
Et vous êtes arrivé récemment, hein, c'est ça, vous avez pris votre poste il y a 18 mois à peu près. Donc voilà, tout de suite, vous êtes dans le bain. Vous aviez un peu l'habitude comme ça de la transformation d'entreprise? Non, je crois pas.
Alors pas à ce point. En tout cas, piloté, puisque avant j'étais dans un très grand groupe, donc qui est évidemment grand groupe en transformation. Donc c'était une entreprise du CAC 40, donc dans des environnements très différents, mais avec cette même nécessité de transformation. C'est juste que là, il faut qu'on le mène nous-mêmes en se retroussant les manches.
Voilà. En se retroussant les manches. Alors vous êtes une ancienne professeure de littérature française, c'est ça, oui. à la faculté. Et donc vous avez une méthode particulière, je crois que c'est la métaphore, c'est ça, Dorothée Miner.
Je trouve que c'est un outil très simple, mais qui est finalement assez efficace, pédagogiquement efficace, mais aussi en termes de communication, justement, encore une fois, parce que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et puis surtout pour le faire comprendre, faire adhérer. Il y a plein de paramètres qui font qu'on se prend des crises tous dans tous les sens, mais pour essayer de donner une vision, avec peu de mots, pour que ce soit pas trop long et que ce soit pas noyé, je trouve que la métaphore est donner des images, des
alors
représentations.
Vous avez quoi comme exemple, par exemple, à nous donner une métaphore?
Alors il y en a j'en utilise des différentes. Je fais des comparaisons, je vais en donner deux, tiens. La première, ça a été de dire, bon, écoutez, imaginez que vous êtes sur un bateau, la coque a des trous, mais on va pas pouvoir aller en cale sèche pour la refaire. Il faut continuer à avancer, on est tous à bord, on fait comment? C'est idiot, mais simplement, d'accord. Donc on se dit, certains vont rester sur le haut de la coque, d'autres vont, il va falloir passer dessous, il va falloir se mettre en sous-marin pour aller, et puis il y en a d'autres qui vont écoper pendant ce temps. Ou l'autre jour, réunion d'équipe, justement, donner l'image, par contre, ça s'est inspiré là, du modèle du sport, où il y avait une athlète belge qui a dû, qui était spécialisée en lancer de poids, mais pour sauver l'équipe belge, qui allait sinon être disqualifiée, il n'y avait personne pour faire le 100 mètres haies. Et elle y allait. Évidemment, elle a fini dernière, mais elle a sauvé son équipe, sinon qui était disqualifiée. Ils ont tous transpiré ensemble. On se met dans des endroits dans lesquels on n'est pas, et voilà. Donc c'est ce détour par la métaphore, par des comparaisons qui, je trouve, est assez aidant pour faire comprendre les choses.
Et alors comment ça se passe, j'allais dire, au quotidien? Vous le dites, il y a du temps à rattraper finalement dans cette histoire. Comment ça se vit au niveau des équipes, peut-être différemment selon les uns et les autres?
Absolument.
Aussi, il faut savoir s'adapter.
Oui, et puis donc il y a une question d'adaptation, une question aussi de crainte, et je trouve un rôle clé à jouer par le management à tous les niveaux. C'est les managers ont un rôle pivot dans l'engagement des collaborateurs et dans la compréhension de la transformation. Si eux comprennent où on va, alors, résultat, ils vont plus être en capacité de l'expliquer à leurs collaborateurs et de faire accepter, de créer les conditions de l'engagement. Hein. C'est vraiment des traducteurs sur les petits périmètres du sens, de la vision, et aussi de donner des marges de manœuvre pour que chacun se dise, je vais pouvoir contribuer. Donc c'est vraiment un élément clé. Et puis après, évidemment, il y a des différences de vision. C'est pour qui ça va être, oui, on veut aller par là, et puis d'autres qui ne vont pas se reconnaître dans ce changement-là.
Alors vous avez lancé ça en décembre dernier, peut-être un peu compliqué d'avoir un peu de recul. S'il y avait des choses peut-être que vous feriez différemment ou vous reverriez un petit peu certaines façons de faire.
Alors faire différemment, et ça c'est peut-être encore un peu tôt. Mm-hmm. Ça je pourrais vous le dire dans quelques mois.
Vous reviendrez.
C'est parce que la grande inconnue, je trouve, c'est la vitesse. La vitesse du changement et de la transformation pour qu'elle soit à la fois acceptée, qu'elle ne soit pas idéalisée où on attendrait que d'avoir des résultats 6 mois plus tard, alors qu'en fait c'est tellement, tellement fondamental à différents niveaux que l'appropriation, que ce soit un petit groupe ou un grand groupe, de toute façon elle se fait pas à pas et que les résultats viennent au bout de... Voilà. Donc c'est la gestion de l'impatience qui est peut-être un des critères les plus importants et sur lesquels il faut sans cesse travailler.
On a un nouveau rituel hein, dans cette édition 2023 puisque c'est en partenariat avec Okedito. Donc j'ai passé la parole à Paul Perdrieux qui est le directeur associé fondateur d'Okedito qui va vous poser quelques questions.
Dorothée, bonjour.
Bonjour.
Alors, notre petit rituel, c'est, tiens, en trois questions, chez Bioforce, vous êtes physique ou digital?
Alors, nous sommes les deux, beaucoup physiques, il faut bien le dire, avec d'une part, d'un point de vue, y a, pour moi, le digital, ça, chez nous, c'est deux choses. C'est à la fois, sur le produit, est-ce qu'on a de la formation digitale, on est dans de la pédagogie numérique ou pas? Et puis, par ailleurs, est-ce que l'organisation a mené sa transformation digitale? Donc, dans les deux, on est oui un peu. mais pas assez. Voilà. Oui, un peu, parce que les pédagogies numériques, elles doivent se développer, même si ça n'est pas toujours facile, surtout que nous, on a une question d'accessibilité, de fracture numérique. Quand on fait de la formation au Niger, vous vous doutez bien que les connexions ne sont pas les plus évidentes, donc il faut travailler à imaginer des dispositifs différents, et l'acculturation digitale est un vrai sujet sur des terrains de crise. Donc les pédagogies d'une part, et puis les outils et la transformation digitale interne. Donc l'organisation s'équipe progressivement avec ses moyens et sa capacité d'appropriation, mais c'est un élément incontournable.
La deuxième question, il faut l'adapter un petit peu au contexte, au métier et au business model de Bioforce. Mais vous êtes plutôt conquête, c'est un newbies, ou valeur vie, client, fidélisation?
Jusqu'à présent, ça a été beaucoup... on reste sur le périmètre. Hein, voilà, donc on est avec des clients existants. Mais c'est bien là où la transformation est devenue nécessaire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'il y a certains endroits, justement du fait de ces transferts aussi de workforce, de personnes à former, les clients de demain et les bénéficiaires aussi, comme ça se dit dans le secteur humanitaire, ne sont plus les mêmes, hein, ils ne sont plus au même endroit. Donc de fait, il faut aller sur des nouveaux terrains, des nouveaux environnements, donc ça va plutôt être en conquête. Que dans le maintien.
La dernière question, c'est que si Bioforce était un sport, quel serait-il ?
Aha ! Course de relais. Course de relais parce que c'est à la fois ce dont on a besoin pour l'organisation, mais c'est aussi ce qu'on fait. Parce qu'on est certes dans un environnement qui fonctionne comme celui d'une PME, et en même temps on est dans un secteur qui est celui de l'ONG autour, un secteur humanitaire, où le grand principe c'est la main tendue. Et donc c'est à la fois ce dont on a besoin, de coopération très fine, et en même temps, avec les clients, avec les acteurs autour, d'être dans ce passage de relais, ce passage de bâton.
Merci Dorothée pour ce partage d'expérience.
Merci Paul. Et donc vous avez parlé de course de relais, c'est un plan de transformation sur 2 ans, c'est ça ? Donc quel horizon ?
Au-delà des 2 ans ?
Oh, j'imagine.
Eh bien au-delà des 2 ans, c'est finalement de développer du partenariat et donc des modèles d'activité, de business partagé avec justement des acteurs locaux, des universités, centres de formation dans les pays. Donc ça c'est vraiment d'avoir construit ça, donc avec une pédagogie refondue, plus agile, qui reste évidemment avec la qualité Bioforce qui est la nôtre depuis 40 ans, mais qui se déploie de manière un peu mobile sur les terrains. Donc c'est vraiment quand on aura fait ce virage à la fois pédagogique et aussi de partenariat, là on aura fait une belle réalisation.
Voilà, une belle transformation qui n'est pas prête de s'arrêter à vous entendre.
Absolument.
Merci beaucoup à vous, Dorothée Lintner, donc redirectrice générale de Bioforce, d'avoir participé à cet épisode de Transformer, le podcast des dirigeantes et dirigeants qui impulsent le futur.
Merci beaucoup, Nathalie.